Bonjour à toutes et à tous, il est 10h30, bienvenue sur votre fréquence Mistral. Je suis Nathalie et je suis très heureuse de vous retrouver en direct de Pierre Vert au cœur de la 18e édition des Nuits photographiques de Pierre Vert. Pendant un peu plus d'une heure, nous allons vivre ce festival de l'intérieur à la rencontre d'une partie de celles et ceux qui font vibrer cet événement pour tous les amoureux de la photographie. Depuis 18 ans, les Nuits photographiques de Pierre Vert mettent en lumière des regards, des histoires, des émotions et des talents venus d'horizons très différents. Cette année, le festival a l'honneur d'accueillir comme parrain et comme président du jury le photographe de renommée internationale, Lothar Schmid, dont le parcours exceptionnel a marqué l'univers de la photographie de mode, du portrait et de la publicité. En presque deux décennies, le festival est passé d'un Paris un peu fou à un véritable rendez-vous de la photographie en Provence. Chaque été, Pierre Vert, petit village du Luberon, devient un véritable village dédié à l'image où se mêlent expositions, projections, conférences et rencontres entre le public et les photographes. Et c'est pratiquement tout un village qui s'investit autour de cette manifestation. Alors que vous soyez passionné de photos, simple curieux ou amateur de belles découvertes, installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h45 en direct des Nuits photographiques de Pierre Vert sur Fréquence Mistral. Pour ouvrir ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir le photographe président et fondateur des Nuits photographiques de Pierre Vert, Stéphane Cosman. Bonjour Stéphane.
Bonjour Nathalie.
Comment
Bonjour
allez-vous
à tous.
Comment vous allez?
Un petit peu fatigué.
Je rappelle à nos auditeurs que mercredi avait lieu le pré-lancement, on peut peut-être l'intituler comme ça, au musée de Salagon à Mannes, avec une soirée exceptionnelle et qui hier soir s'est déroulée, il y avait à peu près 300 personnes dans le public, l'inauguration officielle du festival. Comment, avec des projections, comment avez-vous vécu ces deux premiers rendez-vous?
Très très bien, toujours... Étonné de voir autant de personnes, c'était plutôt 500 personnes à la projection.
Oui.
On a une jauge à peu près qui, visuellement, on voit qu'il y a entre 500 et 600 personnes chaque soir. Ça dépend aussi de la météo. Je rappellerai aux auditeurs que si vous venez sur le site, emmenez un pull parce que le soir il fait froid. J'ai mon ami Mamadou, dont on parlera tout à l'heure, qui avait oublié ce détail et qui est rentré un peu plus tôt que prévu. Non, mais ça se passe très bien, ça se passe très bien. On a vraiment eu la chance d'avoir, encore une fois, une très belle sélection assurée par François-Xavier et son équipe.
Qui est le directeur artistique.
Qui est le directeur, mon ami, directeur artistique. On était les deux photographes du coin qui étaient un peu connus. C'est comme ça qu'on a démarré le festival.
Oui, on le disait la dernière fois, parce que je précise aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver une interview de vous-même et de Lothar Schmid, qui est le parrain de cette édition, sur fréquencemistral.com, onglet Manosque. Et donc, on disait à l'occasion de cette interview, il vous semble que vous avez quand même répondu à un réel besoin sur le territoire.
Oui, donc c'est la 18e édition, et à l'époque, avec François-Xavier, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien au niveau photographie dans le 04. Donc c'était l'idée de départ, on avait tous les deux plus de 50 ans, donc c'était l'heure de transmettre quelque chose. J'ai eu la chance d'être aidé par justement Peter Knapp, qui est mon ami et mentor depuis 1985 maintenant. Et voilà, c'était le moment, lui il est venu, il a été le premier parrain, puis il nous a amené Oliviero Toscani, il a dessiné le logo des nuits, donc tout ça, ça s'est mis en place doucement. Au début, tout le monde faisait tout et n'importe quoi. On a essayé de faire un concours photo, on n'avait pas de lot à donner. La brocante photo, elle a marché un an, puis après, c'était un désastre. Et petit à petit, ça s'est organisé, chacun a pris ses fonctions. Et aujourd'hui, c'est quand même grâce aux équipes de bénévoles et grâce à la population aux alentours, le village, on arrive à faire venir une centaine d'invités dans une convivialité que tout le monde apprécie, je crois.
Parce qu'on peut le rappeler, c'est tout un village qui s'investit. Vous accueillez les photographes, ce sont des habitants de Pierre Vert qui les logent, et il y a beaucoup de bénévoles. Donc sans bénévoles, le festival aurait du mal, comme tous les festivals, toutes les associations. On les salue au passage.
On le sait, ce que je disais hier soir dans le discours avec monsieur le maire, que je remercie au passage. On comprend que les subventions baissent parce que voilà, c'est comme ça. Et on sait que la culture en France, elle tient grâce au bénévolat. Donc on est conscient de tout ça. Il y a des fois des choses qui me paraissent un peu étranges, que certaines sociétés ici aux alentours n'aient pas la vision de ce qu'on fait. On me dit, tu devrais avoir un tel ou un tel. On fait les choses, on organise des expositions dans le sens de ces sociétés. Et puis nous, dans 2 ans, on est aux 20 ans. Voilà, c'est un peu dur parce qu'ils suivent pas.
C'est pas très juste, en tout cas.
Ben nous, on le trouve injuste parce que on se bat, on est tous bénévoles et on se lève de bonne heure, on se couche tard pour que tout le monde soit bien reçu et qu'il y ait une vraie qualité. Aujourd'hui, vous voyez, la directrice des expositions, Marie Corr, nous fait un boulot extraordinaire avec son équipe. On est monté d'un cran. Avant, c'était nous qui organisions les expos. Là, aujourd'hui, c'est une vraie qualité. On a le partenariat avec Vasarely juste derrière nous. Enfin, voilà, les choses se mettent en place. Il y a Emmanuel de la Voûte des Arts qui fait un travail remarquable pour amener des collections qui sont pratiquement jamais vues par le grand public. Donc, tout ça, c'est du boulot et on est tous bénévoles.
Alors, et c'est important de le préciser aussi, le festival est gratuit, il investit tout le village. Pourquoi c'était important pour vous de rendre la photographie aussi accessible ?
Waouh !
Parce que ça, c'est une particularité du festival aussi. Hein.
Bah, je pense qu'aujourd'hui, au niveau artistique, il y a des personnes qui font de l'art pour le vendre. Et puis, il y a les artistes qui ne vivent que pour ça. Moi, je sais que je serai photographe jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que je ferme les yeux. J'essaierai de faire une image qui me plaît. Donc et François-Xavier, c'est pareil. François-Xavier, il fait un boulot extraordinaire. Et François, je dis toujours, il n'a pas d'ego. Il est là, il fait le taf et il ne veut pas qu'on le cite. Et je suis obligé de lui dire, mais non, mais François-Xavier, il n'y a pas que moi, parce qu'on dit toujours, ouais, Stéphane, il a créé les nuits photographes. Non, au départ,
c'est toute une équipe, un festival.
C'est toute une équipe, bien sûr. C'est toute une équipe. Moi, je suis ancien basketteur, je travaille en équipe. C'est un travail d'équipe. On peut pas. Les personnes qui s'occupent de l'hébergement, c'est un point extrêmement important. Alain et Jacqueline, et la personne qui s'occupe de l'accueil, c'est aussi important. On est tous au même niveau. C'est pas parce que moi je suis président que je suis plus important.
Bien sûr.
C'est vraiment un travail d'équipe.
Et cette année encore, les visiteurs peuvent découvrir des expositions, assister à des conférences et échanger directement avec les photographes.
Ça, tout à fait. Tout à fait. C'était aussi le. Vous savez, quand vous allez dans un vernissage. Alors, où vous connaissez le photographe, et alors là, vous allez le voir, ouais, super, Lothar, ouais, ils sont bien tes photos, tout ça, et vous accaparez Lothar, et puis après, vous ne connaissez pas Lothar, vous voulez lui parler, donc vous allez le voir, vous dites, monsieur, c'est bien ce que vous faites, puis lui, il n'a pas le temps de vous parler. Donc l'idée, c'était que les photographes qui exposent à Pierre Vert se viennent, parce que s'ils ne viennent pas, on les expose pas, on dit bah c'est pas grave, t'as du boulot, je comprends, tu viendras l'année prochaine. Ils viennent, ils sont reçus par exemple chez le boulanger du village. Le boulanger, lui, s'y connaît pas trop en photo, il va lui expliquer comment il plante ses poireaux dans son jardin. Et le photographe qui vient de Belgique, et bah lui, il va découvrir autre chose. Et ils se parlent, ils prennent un café ensemble, ils dînent ensemble, et là, la convivialité s'installe, ce qui devient aussi un problème pour nous, on disait, au niveau des hébergements, parce qu'ils sont tellement bien reçus,
ils veulent retourner.
Que l'année d'après, ils fabriquent un nouveau boulot pour revenir et resélectionner à Pierre Vert.
Oui, on comprend bien que c'est un festival assez familial,
oui.
Et il y a vraiment un lien social qui est créé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les temps forts de ce week-end ?
Alors les temps forts, c'est toujours évidemment les projections, puisque surtout pour nos amis photographes qui ont été sélectionnés, hier soir donc on avait eu la première projection, ce soir c'est la deuxième projection, et c'est deux, le jeudi et le vendredi, ce sont les projections où on voit les photographes qui ont été sélectionnés et qui seront primés ou pas du jury. Quoi. Voilà.
Mmh. D'accord. Et vous tenez, on le voit dans la programmation, à faire dialoguer les grands noms de la photographie avec les jeunes talents. Ça aussi, c'est important, non ?
c'est très important. Le premier festival, on a eu Sabine Weiss qui malheureusement est décédée. Et on avait un photographe de 19 ans qu'on avait sélectionné. Et c'est lui qui est allé la chercher à la gare. Et pendant une heure, ils ont été tous les deux dans la voiture. Elle a plus de 80 ans et le gamin a 19 ans. Et ils ont pu, je pense qu'il s'en rappellera toute sa vie. Quoi. Voilà.
Mmh. Quel serait votre, Stéphane, votre plus beau souhait pour cette édition ? Cette 18e édition.
Déjà qu'il ne pleuve pas demain.
Voilà, samedi. Ça, oui.
Sinon, après, c'est compliqué pour nous. C'est soit annulé, soit rapatrié, tout dans la salle. Donc, ça devient extrêmement compliqué.
Bon, le ciel va vous entendre, peut-être.
Oui, ouais.
Mais il y a toujours des solutions, vous allez la trouver.
On va passer entre les gouttes, j'espère. Non, mais que ça se termine bien, que tout le monde soit content, que mon ami Lothar soit content, mais je crois qu'il est déjà très heureux.
Alors justement, Lothar Schmidt, vous êtes bonjour, vous êtes le parrain et le président du jury de cette 18e édition. Alors on connaît votre carrière exceptionnelle entre mode, publicité, portrait et grands magazines internationaux comme Vogue, Elle ou encore le New York Times. C'est un vrai honneur que vous soyez ici. Pourquoi avez-vous accepté d'être le parrain de ce festival?
Parce que j'ai été gentiment demandé par donc Stéphane et mon vieux ami Peter Knapp. Ils sont passés à la maison chez moi en Suisse et on a discuté, donc c'était un plaisir. Parce que normalement je ne fais pas ce genre de truc parce que je ne me sens pas très, je ne sais pas.
Quoi, légitime?
Très talentueux pour faire ça. là, c'était donc entre amis, dans un cadre, je trouve, assez exceptionnel. Et donc, j'ai accepté par amitié. Mmh. Oui. Mmh.
En tant que président du jury, qu'est-ce qui va faire que vous allez sélectionner tel ou tel photographe?
Ah, vous savez, le jugement, c'est toujours subjectif.
Oui.
Et donc...
Et sur quoi va se porter votre subjectivité?
Sur quoi? Je pense ce que j'aime. Et évidemment, mon approche de la photo, c'est que la photo, c'est la photo. Donc j'aime bien que la photo se suffit à elle-même. Maintenant, il y a évidemment beaucoup de possibilités différentes, parce que la photo, c'est une, comment dire, de la communication. On peut dire, on peut ajouter du son, du texte, plein de choses, mais pour moi, je suis un peu puriste là-dedans, ça veut dire que j'aime bien qu'une photo se suffit à elle-même.
Mmh. Oui, il y a beaucoup de tendances, après il y a eu...
Il y a beaucoup de tendances, oui. Et évidemment, je trouve, quand j'ai vu hier, j'ai pensé au problème de la communication de la photo aujourd'hui, parce que la presse, elle a disparu pour le reportage, il y a plus grand-chose. Et puis je me suis dit, un événement comme hier, ça devrait être comme dans le temps, quand les gens allaient de village à village pour rencontrer une histoire. Et il faudrait que ce soit toutes les semaines, en fait. Comme des nouvelles, c'est aussi pour les jeunes photographes, pour avoir une sortie de...
Une visibilité.
Une visibilité, voilà, exactement.
Vous allez partager, ou vous avez commencé sans doute à partager votre expérience avec le public à travers une conférence, Stéphane, non? Ou avec les
photographes? La conférence de Lothar, c'est demain matin.
Demain matin, ouais. À quelle heure?
À 11h, je crois.
11h,
c'est ça. Ça se trouvera où? Ici, ça se trouvera à la salle, ouais, polyvalente.
Oui, c'est ça. C'est la salle.
Alors Stéphane, une question sur Lothar. Bon, vous connaissez le photographe de renommée internationale. Qu'est-ce qui vous a personnellement touché de l'homme derrière l'objectif en tant qu'humain? Parce qu'il y a un photographe, mais il y a un être humain aussi,
oui,
derrière.
Oui, bien sûr. Ce qui me touche, c'est la gentillesse de Lothar. Il est disponible pour tout le monde. Je rappelle que Lothar, quand il travaille, il a un tarif journalier que je ne connais pas et je n'ai pas à connaître. Mais il vient ici gracieusement. Il vient partager, montrer son travail, parler de sa carrière avec une gentillesse. Lui et son épouse, Leslie, ils sont là. Ils sont très bien reçus chez l'habitant. Mais ils sont vraiment disponibles, quoi. Donc là, on est ravis d'avoir un parrain qui vient toute une semaine. Parce que des fois... Le parrain vient juste 24 heures, ce que je comprends aussi parce qu'il a, il a un emploi du temps, il a du travail Et bien, Lothar, il est là pendant une semaine avec, avec Leslie. Et ça, on est super contents.
Alors, il y a une chose que disait Gainsbourg à propos des artistes, et notamment en parlant de Miles Davis, les plus grands sont souvent les plus humbles. Et je crois que c'est votre cas.
Tout à fait. Moi, je confirme.
Merci beaucoup. Alors, sur le plateau également présent, Emmanuel Geoffrin, je me tourne vers vous. Vous représentez la salle La Voûte des Arts à Pierre Vert. Bonjour, monsieur Geoffrin.
Bonjour, madame.
Vous allez évoquer le photographe Étienne Svet, que La Voûte des Arts propose. Et elle propose une rétrospective de son travail. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur ce lieu d'exception et d'exposition. Pourrait-on dire que vous et votre épouse vous tenez avec passion, il me semble.
Oui, en effet. Alors, la Voûte des Arts, c'est une voûte médiévale qui date du XIIIe siècle, que l'on a transformée en salle d'exposition depuis 2021. Et depuis cette date, en fait, on est en partenariat avec les Nuits photographiques Filles de Pierre Vert. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un succès. Parce que en prenant la spécialité de la photographie patrimoniale, je pense qu'on ajoute un plus à ce que les Nuits photographiques font, et c'est aussi important de connaître son passé. La photographie est un art, et il est important de connaître comment cet art s'est développé.
Pourquoi avez-vous choisi de consacrer une rétrospective à Étienne Svet?
Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, Étienne Svet est décédé il y a 30 ans, donc c'était d'une certaine façon un anniversaire. Il a habité Pierre Vert.
Oui.
Il a fait des livres sur la Provence qui ont été remarqués par le prix Nadar en 1970. Et donc, tous ces éléments faisaient qu'il fallait à un moment donné que l'on fasse une exposition sur Étienne Svet. Il y a eu des expositions sur Étienne Svet dans le passé, comme à Manosque en 2002. Et puis aussi, tout au début des Nuits photographiques, il y avait une petite exposition aussi qui a parlé d'Étienne Svet. Sa fille habite à Pierre Vert. Il a habité à Pierre Vert pendant quelques temps. Il habitait aussi à Saint-Michel l'Observatoire. Et il a développé. C'est un photographe avec énormément de facettes et qui a traversé l'époque de 1940 à 1980. Et donc tout cela fait que c'était vraiment un photographe qu'il fallait qu'on expose à un moment donné.
Une question, est-ce qu'il faisait lui-même ses tirages ?
Oui, il faisait lui-même ses tirages, et en fait dans l'exposition on a des tirages originaux, beaucoup de tirages originaux qui nous viennent des musées, du musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, mais aussi du musée Salagon. On était à Salagon l'autre jour, ça faisait partie du partenariat que l'on a. Et également des tirages originaux qui nous proviennent de la famille.
Comment vous avez construit le parcours de l'exposition ? Parce qu'une rétrospective...
Essentiellement de manière chronologique. Oui. Donc en partant de la période égyptienne, puisqu'Étienne Svet, qui était juif hongrois à l'origine, a émigré en Égypte et a été lié au mouvement Art et Liberté, qui est un mouvement qui est artistique de l'époque, développé par des artistes de tous bords. Il y a eu une exposition en 2016 à Beaubourg, à Paris, sur ce mouvement-là. Et ensuite, évidemment, sa période française, où il est arrivé en France en 1946, et il a travaillé dans la publicité. Je tiens à préciser qu'en fait, Étienne Svet, à l'origine, n'est pas un photographe, c'est un graphiste.
Oui.
Et il a fait énormément de... Dans ses photographies, on retrouve cette spécialité de graphiste.
Il a toujours travaillé d'ailleurs en tant que...
Il a toujours travaillé en graphiste, il a travaillé dans une société de publicité. Il a fait beaucoup de publicité dans les années 46 à 56. Et il a fait ensuite ce fameux livre sur la Provence des Campaniles, qui a reçu le prix Nadar dont je parlais tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous espérez que les visiteurs retiennent en sortant de cette exposition ?
Alors, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est plusieurs choses. En fait, la première, c'est l'aspect multifacette de ce photographe. C'était pas quelqu'un qui exposait, c'est quelqu'un qui faisait des livres. Également son intérêt pour le surréalisme. Il a fait des photographies surréalistes qui sont, de mon point de vue, remarquables. Ses illustrations de livres et la façon dont il a construit. L'exposition est bâtie autour du face-à-face, et en fait elle s'appelle Étienne Sfed, le magicien du face-à-face, car il faisait des analogies entre ce que font les hommes et ce que fait la nature, par exemple, ou bien ce que les écrivains écrivent, comme par exemple Jean Cocteau, il y a une partie de l'exposition là-dessus, et les photographies. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur de cette exposition, comment Étienne Sfed réalisait son face-à-face sous toutes ses formes.
Je suppose qu'il y a aussi des bouquins à disposition du public.
Il y en a 4 ou 5 à consulter, il y en a un à vendre dans l'exposition. Donc il y a de quoi faire pour mieux connaître Étienne
Sfed. Pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, quels sont les grands thèmes qui traversent son œuvre?
Alors, comme je disais, il y a la période égyptienne, oui. Donc il a fait des photographies, il a même parcouru l'Égypte à dos d'âne pour faire ses photographies à l'époque, c'était pendant la guerre. Il y a le thème du surréalisme qui a vraiment été important pour lui. Il y a aussi toutes les analogies qu'il faisait entre la nature et puis ce que fait l'homme, par exemple, entre des roues de charrette et puis des melons ou des cactus. Enfin, c'est très intéressant. Et puis également les analogies qu'il faisait dans le livre qui était son livre phare, sur les campaniles, puisqu'il compare, il fait des analogies entre les plantes et les campaniles. Mmh. Et les campaniles sont une marque de la Provence, hein, c'est clair.
Stéphane, un mot sur cette exposition?
Alors un mot, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne l'ai pas vu.
Vous allez la découvrir, vous ne pouvez pas être partout non plus.
Non. D'ailleurs, on peut rappeler l'heure du vernissage, Emmanuel?
Oui, c'est une bonne idée. Oui, donc c'est cet après-midi à 17h45. Il y a une conférence qui est organisée également cet après-midi à 16h30 avec une professeure à l'école Louis Lumière. J'ai toujours besoin, quand je fais des expositions, d'avoir un fonds scientifique qui existe pour pouvoir informer le mieux. Et puis je ne peux pas personnellement faire une exposition sans avoir ce fonds-là. Donc j'ai toujours besoin d'avoir une aide et un support scientifique qui m'aide à faire ces expositions et qui donne une conférence qui permet d'informer le public sur ce qu'est cette exposition.
Qu'est-ce qui reste de son travail aujourd'hui?
Alors des livres, déjà, beaucoup de livres. C'est surtout ça. Il n'exposait pas, donc il aurait pu participer à Arles, par exemple, mais il n'a jamais fait.
Pourquoi, selon vous?
Parce qu'il préférait faire des livres et comme je disais tout à l'heure, il ne se considérait pas comme un photographe, mais
à part entière.
À part entière, donc il faisait pas d'exposition. Par contre, il était en lien avec des grands photographes comme Willy Ronis ou bien Denis Bruyat. Donc il était ami avec eux et donc il avait toutes les connexions qu'il fallait pour pouvoir faire de la très belle photographie, et c'est ce qu'il faisait dans ses livres.
Quel a été votre plus grand plaisir lors de la construction de cette exposition?
Probablement de connaître l'homme. C'est important de bien connaître comment il pensait, si c'est possible, en tout cas un minimum. Et ça c'est important.
Qu'est-ce que vous en avez déduit, donc?
J'en ai déduit en fait qu'il avait, bon, c'était quelqu'un d'assez mystique et qui ses photographies traduisent ça, qui était assez qui aimait travailler d'une certaine manière un petit peu dans l'ombre, plutôt que, c'est pour ça qu'il n'est pas très très connu en fait. Les universitaires que j'ai contactés ne le connaissaient pas, mais ils étaient étonnés et surpris et ravis de connaître son œuvre. Donc c'est dire qu'il y avait, il n'a pas non plus été très très connu dans le milieu, en tout cas.
Lothar Schmidt, vous avez eu le temps de visiter l'exposition?
Je n'ai vu les 4 expositions dans le village, oui.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et l'exposition à la Voûte des Arts, peut-être?
Pas vous encore, avez eu le temps, c'est pas aujourd'hui. Encore.
Voilà. Bon, c'est pas la fin du festival, là, vous avez tout le week-end, justement,
voilà,
c'est ouvert
tout
le...
J'ai encore du travail sur ma présentation de demain.
Oui, exactement. La Voûte des Arts, M. Geoffrin, œuvre sur le territoire et propose des expositions, mm-hmm, toute l'année.
Alors, d'avril à octobre. Mmh. Mais on ne fait pas que de la photographie, on fait aussi de la peinture, on fait de la sculpture, on fait la fête de la science, on fait... Pour mois de septembre, on aura une exposition sur Hokusai qui sera marquante, puisque c'est quand même un artiste internationalement connu. On aura aussi une exposition sur des créateurs de... des créateurs d'artisanat. Donc on fait vraiment, on est assez éclectique sur les thèmes, mais chacun d'entre nous dans l'association a son monde d'une certaine manière. Donc moi je m'occupe plutôt de photographie.
En tout cas, les propositions que vous faites sont toujours de qualité.
Merci beaucoup.
Je vous remercie, monsieur Geoffrin. À présent, sur le plateau pour cette édition spéciale, une photographe qui est participante, Léa Crouza, est-ce que vous voulez d'abord en dire quelques mots ? Bonjour Léa.
Bonjour.
Stéphane.
Moi j'ai découvert son travail assez exceptionnel, mais elle en parlera beaucoup mieux que moi.
Alors Léa, vous présentez la série Rodolphe, que j'ai vue tout à l'heure, qui est présentée à la salle polyvalente. C'est une série qui ouvre des pistes assez riches, la couleur, l'identité, la mise en scène de soi. Et elle a une frontière entre le documentaire et la fiction. Comment est née l'envie de réaliser cette série ?
En fait, c'est né de mon goût pour les personnes si singulières qu'elles viennent déplacer légèrement le réel, déplacer légèrement nos perceptions, et finalement faire naître des germes de fiction dans le quotidien, le banal. Moi, je trouve que ce sont des personnes importantes parce que elles apportent des formes d'échappée, d'ouverture dans le quotidien, et même elles peuvent nous inviter, nous, à s'autoriser aussi d'autres façons d'être au monde et d'habiter nos propres singularités.
Qu'est-ce que vous appelez singularité ? Parce que finalement nous sommes tous uniques. Singularité par rapport à une norme établie ?
Oui, c'est ça. Donc là, Rodolphe, lui, a fait un choix assez radical, c'est-à-dire qu'il s'habille exclusivement de rouge, pourpre, de la tête aux pieds, chaque jour sans exception, depuis près de 10 ans maintenant. Donc voilà, on est dans une sorte de représentation diffuse au quotidien, et avec une couleur qui finalement correspond vraiment bien à toute la palette d'humeur, d'émotion que lui peut vivre au quotidien. Évidemment, c'est une couleur éclatante, donc quand on le croise dans la rue, on le remarque évidemment. Et il y a même souvent des personnes qui viennent justement le remercier d'assumer ce côté atypique et de le vivre à fond.
D'accord. Ça lui pose quelques difficultés au quotidien ?
Pas vraiment, ou pas que je sache.
Non, parce que vous dites assumer, il y a des gens qui viennent, vous dites qu'il y a des gens qui viennent le voir pour lui dire merci d'assumer, pourquoi c'est si compliqué.
Ça
lui pose quelques difficultés en société ?
Non, c'est plutôt les autres qui parfois n'osent pas vivre à fond qui ils sont.
Ok. Et vous avez choisi de suivre ce projet sur plusieurs années plutôt que de réaliser une série plus courte. Pourquoi ?
Je pense que c'est important pour toute série, oui, le côté au long cours, moi, ça me semble indispensable pour des projets photos. En plus, Rodolphe, finalement, évolue aussi. Là, par exemple, cette teinte, cette monochromie vient aussi teinter tous les objets qui l'entourent. J'aime beaucoup ce côté inventaire.
On peut le découvrir, d'ailleurs, dans l'expo.
Voilà, ça me semblerait un peu réducteur de faire une série juste sur quelques semaines.
Enfin, en tout cas, c'était évident qu'il fallait...
Oui, pour moi, c'était une évidence.
Ouais. Est-ce que votre regard a évolué sur Rodolphe au fil du temps ?
Rodolphe, c'est un ami que je connais depuis très longtemps, donc je l'ai même vu évoluer depuis... Enfin, je le connais depuis le lycée, donc je l'ai vu évoluer sur vraiment beaucoup d'années. J'ai vu cette métamorphose finalement. Ça m'a toujours passionnée. C'est vrai qu'il y a eu un moment où je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Je suis passée chez lui et il venait de faire une lessive et là ça m'a frappé sur l'étendoir vraiment tous les vêtements de cette couleur et je me suis dit bon là en photo graphiquement c'est formidable et lui a accueilli le projet vraiment avec bonheur d'autant plus qu'il écrit lui il est auteur de théâtre comédien, acteur metteur en scène et l'idée là pour la suite, ça serait de venir faire dialoguer ces textes avec mes images. Bon, là, j'anticipe beaucoup, puisque là, dans l'exposition actuelle, on n'a pas encore de texte.
Mais dans un second temps, voilà. C'est là où vous voulez aller.
Et l'idée, c'est de venir, finalement, que les images viennent enrichir le texte et vice-versa, pour créer, finalement, une nouvelle œuvre. Voilà.
Vous, en tant que photographe, Léa Crouza, dans cette série, bon, le rouge, il est, on le comprend, omniprésent. Comment cette couleur a-t-elle transformé votre manière de photographier ? Ou alors, a-t-elle transformé votre manière de photographier ?
Disons que ça demande une certaine rigueur. Voilà, puisqu'en plus, c'est en fonction de la lumière, des conditions de prise de vue, c'est une couleur qui peut être assez émouvante. Je dirais la rigueur. Et ensuite, c'est vrai que c'est une couleur qui maintenant vient me saisir au quotidien.
Vous la voyez à présent d'une
Elle m'accompagne
d'une autre
beaucoup,
manière.
Oui.
Et alors, pour parler de votre parcours, bon, là, vous êtes une photographe documentaire, mais cette série laisse place quand même, on le voit, à l'imaginaire aussi.
Complètement. Et en fait, c'est ça que j'aime en photo. C'est pour ça aussi que je fais des photos assez épurées, minimalistes, puisque moi, ce que j'aime, c'est laisser place justement à l'imaginaire du spectateur. Et comme je disais, dans la vie et même au cinéma, j'aime beaucoup quand on est vraiment sur cette frontière entre documentaire et fiction. Donc, c'est ce que j'ai tendance à rechercher. J'aime bien les documentaires où on a un personnage tellement fort... qui pourrait être fictionnel et à l'inverse des fictions qui sont tellement bien documentées avec une vraie immersion qu'on pourrait être dans un documentaire.
Vous évoquez une mythologie intime. Qu'est-ce que ça signifie pour vous cette expression ?
Finalement, Rodolphe ne vient pas en opposition au monde ou se confronter au monde, c'est vraiment lui avec lui-même. Construire quelque chose qui correspond, et encore une fois, aux humeurs complexes qu'il traverse, à l'envie aussi finalement de briller en quelque sorte, et de poursuivre dans le quotidien, lui, ce qui est vraiment lui-même, c'est-à-dire le théâtre en fait.
Et quel regard il a lui-même sur vos photographies ? Quel retour il vous a fait ?
Alors, ce qu'on fait, c'est
surpris, il est ému, il est... Qu'est-ce qu'il...
Lui, il n'a vu que quelques images. Il va venir cet après-midi à l'exposition et à la projection, puisque la série est aussi projetée ce soir, donc je suis très heureuse. Je pense qu'il a vu pas plus de deux images, parce que je veux vraiment lui laisser la surprise. Et il y avait toujours cette idée qu'on travaille chacun de notre côté, texte et images, pour ne pas venir non plus s'influencer... Après la première image fait quand même 2 mètres de hauteur et là je lui ai envoyé la photo, il était assez étonné, il m'a dit que ça serait pas mal dans son salon.
Donc, c'est un portrait de lui, hein.
Oui, un immense portrait de lui, un portrait
dans son salon. A-t-il un grand salon
très rapproché, je pense, il faudrait qu'il déménage.
Rodolphe, déménager. Vous avez d'abord suivi un parcours scientifique. Qu'est-ce qui vous a amené, Léa, à la photographie?
La question c'est plutôt pourquoi ce parcours scientifique, puisque finalement c'est toujours
alors
la...
Pourquoi ce parcours scientifique ?
Non, c'est toujours la... Voilà, ça en irait un peu loin, mais c'est toujours la photo qui m'a animée en fait.
À la base.
C'est de cette façon que j'aime bien m'exprimer ou montrer mon rapport au monde finalement, mon regard sur le monde. Donc, il y a quelque chose d'assez naturel. Après, bon, il fallait oser passer le cap, puisque c'est quelque chose qui est un peu plus périlleux que...
Mais la vie est une aventure périlleuse, vous savez.
Oui, et puis bon, au bout d'un moment, il faut quand même oser.
Bien sûr, voilà. Et vous avez bien fait.
Oui.
Alors vos images, on va parler un petit peu du territoire, vos images accordent une grande importance au lieu. Qu'est-ce qu'un territoire raconte pour vous ?
Quand vous dites au lieu, c'est-à-dire ?
À certains lieux que vous photographiez.
De la même façon, dans les lieux, je cherche justement ce côté décalé qui va venir apporter une autre intensité au quotidien, à l'ordinaire. Voilà, des lieux qui sont chargés d'histoire ou des lieux qui sont provisoirement des lieux d'échappée. Par exemple dans des festivals de musique ou des lieux où les mythologies justement, les rituels sont extrêmement forts et encore une fois laissent place à l'imaginaire.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Léa Cruza ?
De pouvoir vivre de ma photo et vibrer encore avec la photo très longtemps.
Vous êtes sur Fréquence Mistral.
Stéphane.
Un travail s'inscrit dans le temps. J'ai souvent vu des personnes qui attaquaient un sujet juste sur 6 mois, une année. Mais quand on arrive à travailler sur le même sujet pendant plusieurs années, ça...
Mais est-ce que ça dépend pas des sujets, en fait, non ?
Pas forcément.
Pas forcément.
Pas
okay.
Forcément. Je trouve que on le voit. Qu'est-ce qui reste dans le temps ? C'est-à-dire que on le voit bien dans le cinéma. Il y a des films qui traversent les décennies. Et on connaît pas vraiment l'alchimie pour faire ce genre de film. Mais dans la photographie, c'est pareil. C'est si on arrive à avoir un travail, c'est du boulot en fait. C'est pas instantané. C'est pas.
C'est un travail à part entière d'être photographe. L'auteur, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Stéphane.
Oui, je pense le but de plein d'artistes qui viennent de peinture, les photographes, les créateurs de mode. Leur plus grande ambition, c'est de créer quelque chose qui dure dans le temps. Et je pense que c'est ça.
Laisser une trace.
Oui, de laisser une trace et aussi de... Parce que la mode d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est... La mode, on parle de la mode, mais c'est le vêtement, quand on parle de photos de mode, on photographie des vêtements. Maintenant, la mode, justement, elle est de partout. Elle est dans le design, dans la musique, dans le cinéma, il y a la mode partout. Mais la mode n'est pas, c'est des modes. Donc, à un moment, on est très conscient de ça, donc on essaie de créer quelque chose qui peut durer, qui a assez de qualité, si on le regarde dans 100 ans, ah, c'est bien ce qu'il a fait.
Oui, mais aussi des photos de mode qui restent et qui sont intemporelles aussi, non ? Qui marquent une époque, mais il en a très peu.
Je trouve qu'il y en a très peu parce que je pense que la photo aussi a un aspect historique. Ça veut dire, si je sors une photo d'un beau vêtement des années 70 de Saint-Laurent, de Kenzo, je ne sais pas quoi, évidemment, ça prend une connotation historique. Parce que le vêtement, il est à représenter quelque chose de ce temps-là. Et s'il est bien photographié, encore mieux. Donc... Mais il ne reste pas grand-chose, je pense, parce qu'on fait des millions de photos. Mm-hmm. Il reste une dizaine à la fin. Donc le pourcentage est très petit.
Merci, Lothar. Sur le plateau, Mamadou Dramé. Alors, le travail de Mamadou Dramé, qui est un exposant aussi, il est particulièrement intéressant, également, comme Léa Cruza, ainsi que tous les exposants, parce qu'il mêle autobiographie, migration, représentation aussi de la banlieue, territoire, mais particulièrement, il nous parle d'identité et de mémoire. Ces photographies semblent raconter une histoire collective à partir, au départ, si j'ai bien cru comprendre, d'une expérience très intime. Et aujourd'hui, Mamadou Dramé, bonjour d'abord.
Bonjour Nathalie.
Et vous présentez la série « Où je suis ».
Oui, exactement.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir d'abord sur votre parcours, puis vous allez nous parler de votre série. Vous êtes né en Seine-Saint-Denis, puis vous avez vécu plusieurs années au Sénégal.
Oui.
Comment ce déplacement a-t-il transformé votre... Est-ce que ce déplacement a transformé votre regard sur le monde ?
Comme une rupture
ou quelque chose
Exact. En fait, honnêtement, quand mon père a décidé de m'envoyer au Sénégal en 99 parce que j'étais un peu trop dissipé à l'école, forcément, il a essayé de m'envoyer dans un endroit assez reculé. Et là-bas, du coup, forcément, j'ai dû m'adapter. Et pour m'adapter, tout s'est passé par le regard, en fait, parce que il y avait énormément de choses que je ne connaissais pas. Donc ça fait, du coup, j'ai pris une posture où j'étais obligé de me mettre à observer les gens. Et du coup, de ce réflexe, on va dire, d'une certaine manière, là est née l'envie d'immortaliser, parce que je savais que j'avais laissé des frères et des sœurs en France, à la maison. Et du coup, quand je voyais des choses, je me disais, tiens, qu'est-ce que mes frères diraient sur ce que je vois là? Qu'est-ce que mes sœurs diraient? Qu'est-ce que mes parents diraient? Et du coup, de fil en aiguille, ma mère m'envoyait des appareils photo jetables.
Jetables, oui. Vous avez commencé à faire des images pour les envoyer à votre famille restée en France.
Parce que ma mère m'envoyait des... Quand la famille venait au Sénégal, ma mère m'appelait me demandant ce que je voulais. Bien sûr, j'ai essayé avec la PlayStation, c'est pas passé. Et du coup, forcément, j'ai demandé des appareils photo jetables parce que je lui ai dit mot pour mot que j'ai l'impression de vivre un truc de fou. Et il faut que je monte ça, il faut que je garde ça. Et du coup, elle m'a envoyé des appareils photos que je claquais avec mes cousins, avec la famille à la maison au Sénégal. Et du coup, les appareils photos retournaient en France pour les développer. Et ensuite, les photos me revenaient. Mais avant qu'elles me reviennent, ma mère montrait les photos à mes frères et à mes sœurs. Et du coup, on me renvoyait le lot. Et moi, je regardais ça avec mes cousins, avec la famille. Et c'est vraiment parti de ça, en fait.
À quel moment, Mamadou, vous avez compris que la photographie pouvait devenir bien plus qu'un simple souvenir personnel?
Alors ça s'est fait un peu plus tard. Ça s'est vraiment fait un peu plus tard. On était dans les années 2007-2008, où en fait c'est parti d'un constat, parce que à l'époque, je passais beaucoup de temps, j'aimais bien passer un peu de temps seul. C'est-à-dire, dans la journée, j'avais un petit parc où j'allais me poser là-bas une heure ou deux, tout seul. Et en fait, je commençais à me poser des questions sur ce parc en question, parce que c'était un parc où il y avait de la vie à l'époque. Tout le monde était là, on jouait au foot, on était là avec les parents, les mamans, les sœurs, tout ça. Et finalement, le parc, il a été délaissé et il s'est transformé en... Les habitants venaient faire chier leurs chiens... dans ce parc-là, parce que le parc était vraiment pas du tout utilisé. Et du coup, de ça, je me suis dit, non, mais c'est pas normal, ça. Mais quelle est la place de la mémoire, de ma mémoire? Donc du coup, j'ai commencé à prendre ce lieu en photo. Et de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à arpenter tous ces lieux dans mon quartier, dans ma ville, où il y avait eu des histoires, que ce soit positive ou négative. Et du coup, ça m'a forcé à rentrer dans mes souvenirs pour me rappeler de situations qui étaient parfois rocambolesques. Mais en tout cas, c'est de là que mon amour pour la mémoire est né.
Vous, Lothar Schmidt, vous avez commencé avec l'appareil photo de votre tante. Vous aviez quel âge?
J'avais 11-12 ans. Oui.
Ils étaient jetables à l'époque, non? Ils étaient jetables, non?
Jetables, c'était un
appareil
là, comme les reléflex.
Les reléflex, oui.
C'était pareil. On regardait dans l'eau comme ça, et c'était marrant. C'est
inversé.
Un angle. C'était pas cet angle-là en haut sur la tête. C'était
déjà la posture est différente.
Je trouvais que c'était pas mal.
Oui.
Parce que c'est pas mal. Enfin, c'est parce que ça joue un rôle. L'appareil, il donne une attitude. Donc, au début, c'est un départ pour faire une photo.
Et vous, Stéphane, vous êtes également photographe. À quel moment vous avez compris que vous alliez en faire votre métier?
Mon père faisait beaucoup de photos et faisait aussi des petits films en 8 pour les vacances. Donc, à l'époque, on envoyait ça et on recevait la petite enveloppe jaune avec le film dedans. Et c'était... on revoyait nos vacances, donc ça a été, c'était un moment magique. Alors évidemment, des fois, le projecteur, ça s'arrêtait, ça cramait le film. Alors on a dit non, c'était irréversible, pardon. Mais mon père m'avait donné aussi ces petits Kodak Instamatic, c'était une boîte avec trois réglages, il y avait... soleil et nuages, je crois. Il y avait deux réglages,
c'est
voilà,
déjà
et
pas
puis
mal.
Et ça faisait clic. Et on recevait les tirages. Alors il y avait une grande photo qui était carrée et deux petites photos. C'était le bonus photo. C'était voilà. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, ça a continué.
Voilà. Oui, je vois. Mamadou Dramé, votre travail est centré sur les questions identitaires et de mémoire. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler du travail que vous présentez au Festival de Pierre Vert ?
En fait, où je suis fait partie d'un travail que j'ai appelé « Où je suis, d'où je viens ». Et en fait, où je suis raconte mon rapport avec le pays dans lequel je suis né, la France. Et en fait, mon rapport avec l'identité, c'est toujours en lien avec le Sénégal, parce que dans ma jeunesse, quand mon père m'a envoyé au Sénégal, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, et des jeunes Sénégalais venaient me voir, des cousins, la famille me disaient que Mamadou, t'as beau être un Renois, entre guillemets, t'as beau être un Renois comme nous, Mamadou, tu restes un petit Français, donc on m'appelait l'immigré. Bon, je trouvais ça vraiment rigolo au départ, parce que je me disais, bon, vas-y, s'ils veulent m'appeler l'immigré, j'y peux rien. Mais quand je suis revenu en France, du coup, quand on a commencé à voyager un peu dans les différentes régions, on nous appelait les enfants d'immigrés. Donc je me suis dit, bon, au bled, on nous appelle les immigrés. Ici, on nous appelle les enfants d'immigrés. Donc il faut que je commence à raconter mon histoire, parce que vraiment, si je ne le fais pas, je pense que d'autres personnes le feront à ma place. Et peut-être que l'histoire sera biaisée. Donc du coup, où je suis, retrace un peu mon parcours dans ce quartier. Et ça a commencé avec moi, parce qu'au départ, dans mon quartier, personne ne voulait jouer le jeu.
Comment s'appelle votre quartier ?
Mon quartier s'appelle le quartier des Mille-Mille, et c'est à Aulnay-sous-Bois, okay. En Seine-Saint-Denis, dans le 93. Et en fait, dans ce quartier-là, les gens ne voulaient pas jouer le jeu avec moi. Ils ne voulaient pas que je les prenne en photo, donc du coup, je me prenais moi en photo. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à montrer mon travail à des camarades, du coup, qui, eux, ont validé la démarche. Du coup, on a commencé à déambuler de rue en rue, ensuite de quartier en quartier, et après de ville en ville. Et en fait, ce travail-là, où je suis, il est coupé en trois chapitres, avec le premier qui s'appelle ZUP, pour Zone Urbaine Photographique.
Où là, vous photographiez les habitants de l'intérieur.
Hein. C'est ça. Ouais, oui. Et en fait, je parle aussi beaucoup de cet empêchement de bouger, que nous, les jeunes banlieusards, on a toujours tendance à se mettre devant nous, ce refus d'aller vers l'autre, d'aller à la ville capitale, par exemple, à Paris. On a toujours eu une phase où on préfère rester entre nous. Donc du coup, ça, c'est la première partie. Et ensuite, on a Lumière sous bois, qui, elle, veut mettre la lumière. En fait, c'est des photos où je mets la lumière sur des personnes qui, comme moi, ont eu la capacité à aller au-delà.
D'accord, alors de quelle manière s'organisent les séances? Je crois qu'elle vous propose un lieu, elle vous emmène dans un lieu.
Exactement.
Et elle vous dit, j'aimerais bien être photographiée dans ce lieu.
Ouais, parce qu'au départ, vu que c'était vraiment moi qui étais à la construction de tout, c'est-à-dire que moi, je faisais des campagnes à travers mes réseaux sociaux, je disais à mes gens, j'ai trouvé un spot, est-ce que quelqu'un serait chaud ou chaude pour venir me suivre dans le quartier, la nuit, derrière des bâtiments, entre deux buissons. Donc du coup, il y a un public qui a suivi, mais un autre non, c'est-à-dire le public féminin. Et ça, on me l'a beaucoup reproché sur mes deux premières séries, c'est-à-dire la zone urbaine photographique ainsi que elle, Lumière sous bois.
Mais en même temps, vous sortiez beaucoup la nuit, donc ouais. Effectivement, il y a moins de dames qui se promènent la nuit, non ?
Après, nous, moins de dames. Après, j'ai eu des débats avec des femmes et des hommes aussi qui me faisaient comprendre que je ne dois pas m'arrêter là-dessus et que je dois essayer d'aller au-delà.
C'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce que j'ai fait, parce que du coup, vu que c'est moi qui invitais les gens, et du coup, là, j'ai demandé aux gens de m'inviter. Voilà, tout simplement, de m'inviter sur un lieu où ils ont une histoire à me partager. Et du coup, ces personnes m'invitent sur ce lieu, on parle du lieu, le rapport qu'ils ont avec, et ensuite, on construit la photo ensemble. Du coup, moi, photographe, je cadre, je compose. Et ensuite, la personne, elle, les gens de l'image. Parce que vu que c'est elle qui a le vécu, donc c'est elle qui est le plus à même de raconter, de légender cette photographie. Et du coup, pour le coup, moi j'étais grave content parce que du coup, j'ai réussi à aller au-delà. J'ai réussi à toucher un des publics que je ne touchais pas à l'époque. Et moi, je trouve que ça reste une évolution. Parce que ce projet-là, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai commencé.
Mais ça reste... Est-ce que la photographie, mais ça, je pose la question à tout le monde, est-ce que c'est pas non plus un prétexte pour aller, une passerelle pour aller vers l'autre ?
Bien sûr.
Consciemment ou inconsciemment, non ?
Oui, moi, je suis assez sidéré de la vision des médias sur les banlieues. J'ai grandi en banlieue aussi. Et on oublie cette fraternité qu'il y a dans les banlieues. Et je voulais absolument que Mamadou vienne ici en témoigner. Et je trouve son travail remarquable, qui justement s'inscrit aussi dans le temps, sur une décennie. Il a pu, lui, moi j'ai quitté la banlieue il y a longtemps. Mais lui, il y est toujours, il est actif aussi, il travaille dans une association. Et voilà, donc aujourd'hui, on a, à cause des médias, des news, on a une dérive extrême droite qui est là, et on oublie les choses positives qui se passent dans les banlieues, voilà. Et c'est important de ne pas fermer la porte et de pouvoir montrer ce genre de travail.
Voilà. Mamadou, quel message est-ce que vous aimeriez que le public retienne en découvrant cette exposition ?
En fait, moi, ce que j'aimerais bien, moi, rien que le fait est de venir ici à Pierre-Vert, raconter cette histoire, raconter mon histoire, pour moi, déjà, c'est un exploit. Parce que voilà, mon histoire, elle est pas dure, mais elle n'est pas fraîche non plus. Je tenais des propos assez radicaux fut un temps. Parce que voilà, moi, clairement, je ne me sentais pas français, je le dis. Mais je ne me sentais non plus pas sénégalais. Voilà. Donc c'est vraiment sur ça où j'ai fait le travail, où me dire il faut que je me situe quelque part, parce que si je ne le fais pas, ça va être compliqué. Et moi, la mémoire, c'est vraiment quelque chose qui, du coup, que j'ai découvert tardivement et que j'ai pas hésité et que du coup que j'ai découvert tardivement et que du coup j'ai vraiment fait un gros focus dessus pour pouvoir harmoniser la mienne. Mais en parlant de mon histoire, je raconte l'histoire de toutes ces personnes qui tournent autour de moi, toutes les personnes dont je tourne autour d'eux, excusez-moi, mon français est un peu technique, pardon. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de montrer, c'est juste que, voilà, on a des vies, on a des parcours, on n'est pas dans une histoire de justification, mais c'est juste que la mémoire, maintenant, en banlieue, il y a énormément de photographes qui font un travail énorme sur cette banlieue-là, et il faut juste... Il faudrait juste nous laisser un peu de temps encore. Et normalement, je pense qu'on serait en mesure de contrecarrer un peu tous ces médias dont Stéphane, tu disais, qui portent un angle pas forcément...
très négatif.
Voilà.
Justement, votre travail sert à ça.
Exactement.
Et c'est tout en votre honneur. Merci Mamadou Dramé.
Je vous en prie.
Pour continuer cette édition spéciale, je me tourne à présent vers un autre exposant, Nikos Djail. J'ai bien prononcé votre nom.
Oui, oui, c'est ça.
Parce que ma particularité, c'est toujours d'écorcher les noms propres. Donc, votre série ouvre sur des questions plutôt sur l'écologie, la fiction, le photomontage... Et le regard, bien entendu, porté sur notre époque. Je précise que vous exposez à la salle polyvalente de Pierre-Vert. Alors, comment est née l'idée de Chimère ? C'est le nom de la série. Et les nouveaux habitants. Chimère, les nouveaux habitants.
Il y a plusieurs origines à ce genre de série. Il y a des rencontres. Il y avait un projet collectif. Je suis dans un collectif qui s'appelle Le Bal des Rejetons. Et on est parti sur une... On avait fait un bouquin il y a 3 ans. D'ailleurs, quelques-uns avaient été invités à Pierre-Vert... il y a 3 ans, et là on est parti sur une nouvelle saison, comme on dit, qui s'appelle Mythologie. Et donc là-dedans, il fallait trouver un thème, on est 18, et chacun devait trouver un thème. Et il m'est apparu, après il y a une autre origine, par exemple, qui n'a rien à voir, c'est que j'étais dans une rue dans le 19e arrondissement, là où j'habite, et je vois un type qui avait une tête incroyable, avec un chien qui avait une tête incroyable. Et je me suis dit, mais il faut que je les marie tous les deux.
Vous avez fait une photo de chacun ?
J'ai pas fait. Ils sont passés comme ça. J'ai pas osé les approcher. J'étais pas prêt. Enfin voilà, j'allais faire des courses. Donc c'était pas le bon moment. Mais bon, il y a eu ça. Je suis allé voir une exposition de Paolo Roversi qui était à ce moment-là, qui m'a inspiré en fait, puisque j'ai adoré ces photos. C'était dans un musée parisien aussi.
Donc, je me permets de vous couper, on en revient aussi à ce que disait Mamadou. Être photographe, c'est aussi observer le monde et être malgré tout, tout le temps en observation, bien malgré nous, non ?
C'est l'intérêt. C'est un des clés. Enfin, c'est à la rigueur, même si on n'appuie pas, on regarde différemment. Il y a assez longtemps, quand je me suis remis à faire la photo, j'étais producteur de télévision, et puis bon, ma boîte a fermé, j'ai eu quelques mois un peu difficiles, et je me suis rebaladé dans mon quartier, qui est le 19e, toujours en arrondissement, et je suis parti avec un petit appareil photo, et c'est des rues que je connaissais par cœur, que j'ai fréquentées avec mes enfants dans tous les sens, et là je me suis dit, tiens, je vais faire 300 mètres, mais avec un regard différent.
Et sur 300 mètres, on peut, avec un regard différent, il y a beaucoup.
Et en bas de chez soi.
Exact, mais il y a beaucoup de choses à voir aussi.
Parce qu'on décide jamais. De regarder différemment. Oui. Et ça, c'est un peu ma vie, parce que je suis journaliste au départ. Donc c'est d'être témoin, d'être plutôt derrière, d'être effacé, mais de regarder ce que, à la rigueur, les gens n'ont soit pas l'occasion d'aller voir, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans tous ces pays où on va, soit parce qu'ils ne sont pas payés pour ça, soit parce qu'on oublie de regarder les choses qui nous entourent d'un autre regard.
C'est vrai. Alors, série, alors, ces nouveaux habitants, ce sont des créatures imaginaires.
Fantastiques,
ouais. Oui, ou le reflet de ce qu'on pourrait devenir en 2167.
Ouais,
c'est ça ?
Ouais. Pourquoi cette année ?
Oui.
Parce que j'aurai 200 ans.
Ça se fête. Ben, je vous donne rendez-vous.
J'aurai 200 ans.
En 2167, je vous donne rendez-vous et puis on fêtera vos 200 ans.
Cela dit, je risque d'être un peu pessimiste, hein, parce que vu où va le monde et à la précipitation et la vitesse dans laquelle ça se dégrade, peut-être que ça sera avant.
Oui. Donc vos chimères sont-elles une utopie ou une mise en garde, justement, ou les deux à la fois ?
C'était parti sur une utopie et ça devient une mise en garde. L'actualité, encore une fois, moi j'ai fait beaucoup de reportages, je connais un peu le monde comme chacun d'entre nous, j'ai essayé de le raconter. Pour essayer, alors quand on est jeune journaliste, on est un peu con-con et on a l'impression qu'on va pouvoir changer un peu le monde. Donc ça fait 35 ans que je fais ce métier, que je raconte des histoires à la télévision souvent, pour faire des warnings, pour dire attention, ça se passe comme ça ici, notamment sur l'écologie, mais pas que, sur la corruption, sur plein de choses que j'ai pu raconter. Et j'ai échoué. Alors je ne suis pas tout seul à avoir échoué, mais j'ai échoué parmi d'autres. Et, en fait, j'en veux à ma génération, à celle qui est au-dessus, parce qu'on n'a pas réussi à changer le monde et au contraire, il se dégrade à une vitesse incroyable. Du coup, de ce regard un peu humaniste où on se dit, tiens, l'homme n'est pas forcément bon, on ne va pas être béat sur les humains, mais on va essayer de trouver de la poésie dans ce qu'on peut porter chacun d'entre nous. Ça, c'est le regard humaniste.
Au quotidien, je crois que c'est même politique de se lever le matin et de se dire, vu le monde pessimiste, un petit peu un peu fou dans lequel nous vivons, je me lève tous les matins en œuvrant pour la beauté ou pour aller chercher justement
ce qu'il y a de beau dans la tragédie que nous vivons, mais la tragédie de l'être humain, hein, parce que notre destin il est écrit, on va tous mourir, donc on va trouver un peu de poésie là-dedans.
Oui.
Et à un moment je me suis dit, il y a 2-3 ans, je dis en fait j'ai échoué, donc on va aller au-delà. On va de cette colère-là, je vais raconter une autre histoire. Je vais dire, ouais, Homo sapiens, ça fait que 40 000 ans qu'il est en Europe. 300 000 ans, je crois, en Afrique, puis 40 000 ans en Europe. C'est pas beaucoup. Hein.
Vous dites qu'Homo sapiens s'est dissous dans ses vanités dominatrices.
Ouais. Bah ouais, c'est un dominateur. C'est un dominateur, il a voulu tout domestiquer, toute la nature. Néandertal, pour commencer. On s'est un peu croisé avec lui, mais on a fini par l'éjecter. La nature, on a voulu la dominer. Homo sapiens se domine entre lui-même, on en a tous les jours des exemples de quelques hommes, c'est souvent les hommes, hein. Par ailleurs chez Homo sapiens, qui veut dominer tout le reste du monde, enfin bref, et cette domination risque de le manger, et donc voilà, après ça reste une utopie, et c'est un cri pour dire bon, on se réveille un petit peu.
Attention, alors pour revenir à la série, donc c'est des hommes mi-humains, pardon.
Ce ne sont pas des hommes, ce sont des êtres
pardon,
hybrides.
Autant pour moi, des êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux. Alors, vous précisez une chose importante, parce que maintenant, on ne sait plus, que bon, c'est réalisé par superposition, en post-production, mais sans intelligence artificielle. Et ça, c'est important de le préciser.
Oui, je pense que ça, parce que la question pouvait se poser. Ce sont des... j'ai pris des animaux, soit chez les gens, parce que parfois, ce sont le corps d'un humain avec son animal, pour le chat, pour le pigeon... donc ça, j'ai fait ça chez eux, j'avais une toile, j'ai transporté et j'ai fait les photos séparément Et après, en post-production sur Photoshop, que je ne maîtrise pas du tout, mais j'ai compris un outil qui s'appelle la gomme. Donc j'ai mis les deux photos l'une sur l'autre, je les ai adaptées pour que les proportions soient à peu près honorables.
Mais vous savez, c'est, après, comme quand on était sous le, c'est comme quand on était sous l'agrandisseur, on a des petites pastilles comme ça, c'est exactement la même chose.
Oui. Donc voilà, il y a quand même du travail d'informatique, digital, etc. Et j'essaie de marier soit en couleur, soit dans la forme, soit dans la position.
C'est très surprenant. Vos images sont très surprenantes.
Quelques-uns que j'ai anticipés. Parfois, c'est des accidents. La girafe, par exemple, j'ai demandé au modèle qui était un New-Yorkais. J'avais mis une petite annonce sur Facebook. Je dis, j'ai mon petit studio chez moi. Si quelqu'un veut passer demain, il y a ce type qui est arrivé.
Quel retour vous en avez dû ? C'est la première fois que vous exposez la série ?
Ouais.
D'accord, donc vous allez avoir des retours, vous avez commencé à avoir des retours.
Oui. Hier, il y a eu quelques retours.
Lesquels étaient-ils, par exemple ?
En fait, je crois que c'est bien qu'on puisse expliquer ce que c'est, parce que soit les gens vont voir ces photos, ils disent, il s'est amusé à faire des trucs bizarres.
Non, quand on a le concept, on les regarde plus de la même manière. Donc, alors, autant, c'est vrai qu'il y a des photos, et moi je suis complètement d'accord avec vous, Lothar Schmidt, qui se passent de commentaires et qui n'ont pas besoin d'avoir un texte à côté, autant certaines séries, là oui, c'est bienvenu pour pouvoir plonger dans votre regard, vraiment.
Il y a ces différents niveaux de lecture, soit on dit c'est beau, ou c'est moche, ou ça fait peur, ou machin, soit on comprend ce que j'ai voulu essayer de raconter, à savoir que, il y a une espèce qui va peut-être remplacer Homo sapiens, c'est ça le sujet, quoi.
Très bien. Merci beaucoup, Nikos Jail.
Merci, puis merci à Pierre Vert, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup l'ont dit avant moi, à tous les bénévoles, à l'accueil formidable ici. Je suis dans une maison dans la Pinette, c'est extraordinaire, plus l'accueil des festivaliers, des bénévoles ici.
Merci. Je me tourne à présent vers Nicolas Klein. Bonjour Nicolas Klein, vous êtes le parrain de l'étoffe des Nuits 2026. C'est un collectif à la base, c'est ça ?
Oui, l'étoffe des Nuits, c'est un collectif qui s'est créé, je crois, il y a 7 ans maintenant, se présentant comme un festival off.
Alors, on compte pas moins, dites-moi si je me trompe, pas moins de 16 expositions.
Je crois que c'est ça.
C'est pas mal.
Oui, ça fait. Ça commence à faire du monde, oui.
Alors, que va pouvoir découvrir le public ?
Écoutez, là, le thème de cette année que j'avais proposé quand on est venu me demander ma participation, comme le disait Lothar tout à l'heure, moi j'aime bien aussi quand la photographie se suffit à elle-même. Et du coup, j'ai proposé un atelier autour de la narration photographique avec pour objectif de sortir une série entre 5 et 10 images, mais absolument sans aucun texte, si ce n'est qu'un titre pour annoncer un petit peu la couleur ou le noir et blanc, on va dire. Et pour ça, on a fait un atelier d'une journée, en fait, sous forme d'un petit peu de masterclass, où j'ai un petit peu expliqué, c'est pas question de parler de technique parce que c'était pas le but, mais de parler un peu de tous les procédés de narration qui peuvent exister et qu'on peut utiliser pour mettre en place après une série qui va raconter une histoire. Donc pour moi, ça me tenait à cœur de faire cet exercice. Le collectif OFF, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ramène des gens qui sont passionnés ou qui aiment la photographie, qui la pratique de manière, amateur ou passionnée, ou parce que ils aiment les images, etc. Donc il n'y a pas de jugement, mais en fait c'est des gens qui sont là pour apprendre. Et moi c'est tout à fait, moi j'adore apprendre et je continue.
Vous êtes photographe également et vous exposez également.
Alors j'expose cette année, il y a une petite expo dans le off. Donc la photographie, je ne suis pas photographe professionnel, mais j'allais dire largement passionné. Moi j'avais un petit labo noir et blanc quand j'étais petit.
Donc la gomme, vous connaissez ?
La gomme, oui, je connais même les masques sous l'agrandisseur. Voilà.
Les masques.
On a commencé comme ça. Et c'est vrai que ça va plus vite avec la gomme maintenant. Puis après, j'ai commencé à travailler dans la presse. Et c'est là que j'avais rencontré Stéphane Kosman. Il y a quelque chose comme 30-35 ans. Donc oui, l'image pour moi, c'est quelque chose qui a toujours eu une place très très importante. Je suis issu d'études publicitaires. Ça transmet forcément quelque chose. Et le titre, c'était le murmure d'image. Parce que un murmure, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément. qui est sujet peut-être à interprétation ou réinterprétation. Donc ça a laissé un petit peu d'ouverture aussi par rapport aux séries qui sont présentées, ce que les élèves ont produit suite à cette masterclass entre guillemets. Et après, un mois après, on a refait des sessions en individuel pour pouvoir travailler sur l'editing de tout ce qu'ils avaient pu produire, en donnant des conseils d'accompagnement pour au final arriver aux expositions qui sont en place à la Maison pour tous.
Est-ce que le collectif a pu échanger justement avec les différents exposants?
Le collectif, oui, de toute façon, tout le monde était là à la session, et après, c'est un enrichissement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre tout le temps, et à partir du moment où je maîtrise quelque chose, c'est de le retransmettre aussi à d'autres pour ça. Et ici, sur les nuits photographiques, ce qui est intéressant, c'est justement tous ces échanges qu'on peut avoir avec les photographes. Parce qu'ils sont là, ils sont présents.
Ça, c'est important.
À 14h, on peut aller au jardin de Jeannette pour discuter avec les photographes qui ont été exposés la veille. Apprendre de leur travail, de leur singularité, et c'est de l'échange. Et pour moi, c'est une nourriture.
Je crois que c'est une des particularités de ce festival.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
Est-ce que vous pouvez rappeler les lieux d'expo?
Alors, en fait, il y a la rue de Beaumont.
Pour Murmure d'images.
Il y a la rue de Beaumont où il y a la série de Tiffany. Et après, en fait, le gros se passe à la Maison pour tous. Donc, il y a trois salles en fait à la Maison pour tous. Il y a deux salles au rez-de-chaussée et une salle à l'étage. Les gens, peuvent. Il n'y a qu'un titre sous chaque photo avec le nom du photographe. Et après, chacun a la cible au cours. Alors, il y a des séries qui sont très poétiques, d'autres qui sont très documentaires. Tout le monde a exploré un petit peu sa manière de voir les choses. Et le but, c'était de leur transmettre un petit peu cette manière d'approcher la photographie. Je crois que j'ai eu un retour, ce que tu nous as raconté, on va pas appuyer sur le déclencheur de la même manière, en fait. C'était le but, je suis content.
C'est le but,
Je suis content d'avoir essayé de transmettre ça. Et c'était l'objectif. Donc je pense que tout le monde a récupéré quelque chose de ces ateliers.
Attend la prochaine édition, la 19e édition de 2027.
19e édition pour les nuits, oui. Et ce sera la 8e pour le
off. Pour la 8e pour les... Oui,
ouais, tout à fait.
Okay. Merci beaucoup Nicolas Klein. Le mot de la fin, je vous le laisse, Peter Schmid, en tant que parrain cette année de la 18e édition.
C'est gentil.
Et président du jury. Oui, c'est une lourde responsabilité. Oui, oui. La vie, elle est périlleuse.
Je ne sais pas si ça peut être le mot de la fin ou du début, je ne sais pas. Non, je trouve aujourd'hui, comme je connais le métier de photographe depuis très longtemps, c'est que tout a changé. Donc aujourd'hui, la plus grande plateforme pour les images, c'est Instagram. Tous les jours, c'est des millions et des millions d'images. Tout le monde peut en mettre et tout le monde peut regarder. C'est comme vous êtes au supermarché, vous êtes devant un mur d'une trentaine de lessives, vous ne savez pas laquelle choisir. Et donc, c'est vrai, il y a des gens qui sont éduqués pour faire du editing, et c'est très important qu'on fait du editing, et proposer des choses qui sont quand même, qui ont une base plus ou moins sérieuse, si je peux le dire. Et donc, je pense... C'est très important qu'on revienne quand même à plus de festivals, des choses comme ça, ou des gens derrière qui peuvent avoir l'œil pour choisir. Et parce que si ce n'est pas un choix, c'est une source générale énorme. Et je trouve que c'est un peu le problème de notre temps. Donc j'espère que Pierre Vert continue et que c'est continue dans cet esprit. Je trouve que c'est très bien et je suis ravi d'être là. Et merci à tous. Bonne chance pour le futur.
Merci beaucoup Lothar Schmid. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes venus mercredi dans le magazine À la bonne heure. C'était à partir de 12h10. C'est un magazine quotidien où on reçoit des invités, où il y a des chroniques, de la musique. Et on peut retrouver votre interview qui est assez longue où vous parlez justement de photographie. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce plateau spécial en direct des 18e nuits photographique de Pierre Vert. Un immense merci à tous les photographes qui ont pris le temps de venir partager avec nous leur passion. leur univers et les histoires qui se cachent derrière leurs images. Merci pour ces échanges, ces regards et ces émotions qui donnent tout son sens à ce magnifique festival. Merci également à toute l'équipe des Nuits photographiques de Pierre Vert pour son accueil et son engagement à faire vivre année après année cet événement qui met la photographie à l'honneur au cœur de notre territoire. Et bien sûr, un grand merci à vous, auditeurs de Fréquence Mistral, chers auditeurs, de nous avoir suivis en direct tout au long de cette émission. Nous espérons vous avoir donné envie de pousser les portes des expositions, de rencontrer les artistes et de découvrir toute la richesse de cette 18e édition. Je vous souhaite une excellente fin de matinée et une très belle visite des Nuits photographiques. On remercie également Yannick, qui était le technicien pour l'émission. Merci et bonne journée.